RFI. Grand reportage.
Nous constatons que ce sont avant tout les forêts façonnées par l'homme qui meurent. En moyenne montagne, les épicéas sont particulièrement touchés. Cela concerne des immenses superficies qui s'étendent sur des paysages entiers. D'autres forêts sont également concernées, y compris des arbres endémiques.
Comment reboiser à l'aune du réchauffement climatique? L'Allemagne se pose la question, ses forêts sont malades, seulement 2 arbres sur 10 sont en bonne santé. Le gouvernement évoque une mission générationnelle et lance le plus important programme de reforestation de son histoire. Il concerne 280 000 hectares, mais comment prendre les bonnes décisions? Les scientifiques divergent. Changement climatique, l'Allemagne à la recherche de la forêt du futur. C'est un grand reportage de Stéphanie Schuller.
Le drone s'élève au-dessus de la cime des arbres. Pour savoir comment va la forêt, on commence par jeter un coup d'œil sur la canopée.
S'il fait très sec, les arbres perdent leurs feuilles plus tôt.
Pourquoi ça?
Les feuilles des arbres sont dotées de micro-ouvertures. C'est par ces ouvertures que les arbres absorbent le dioxyde de carbone dont ils ont besoin pour la photosynthèse et qu'ils rejettent l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer. Mais pendant cet échange gazeux, l'eau s'évapore. Pour limiter cette perte en eau, l'arbre va se débarrasser de ses feuilles.
Les arbres tentent ainsi de survivre au moment d'une sécheresse, mais ce mécanisme affecte leur vitalité. Nous nous servons de cet effet pour le monitoring. Les pertes en feuilles ou en aiguilles, le fait que la canopée s'éclaircisse, est un bon indicateur du stress que subissent les arbres. Dans nos rapports annuels sur l'état de la forêt, nous nous basons entre autres sur la densité de la canopée. Pour le dire simplement, plus un arbre perd ses feuilles, plus il est stressé. C'est en quelque sorte notre thermomètre pour prendre la température de notre patiente, la forêt.
Heino Polley est le directeur adjoint de l'Institut Thünen des écosystèmes forestiers à Eberswalde dans le nord-est de l'Allemagne. L'Institut Thünen est l'une des principales unités de recherche sur les forêts allemandes et conseille le gouvernement de Berlin. Ensemble avec l'hydrologue Marco Natkin, Heino Polley nous fait visiter une partie de la forêt qui sert de laboratoire expérimental en plein air. Les deux scientifiques sont inquiets.
Nous avons constaté par exemple que les années de production de fruits s'accumulent. Il y a encore quelques décennies, on disait que tous les 8 ans, il y avait une année de fructification. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tous les 8 ans, il y a une année sans fructification.
C'est un réflexe de survie ?
On voit que les arbres produisent les fruits après des années d'extrême chaleur et de sécheresse. Si l'arbre meurt, il aura ainsi quand même assuré sa descendance.
Basé sur les observations des scientifiques, le gouvernement allemand publie depuis 1984 un rapport annuel sur l'état de la forêt.
Ce qui frappe dans le dernier rapport, celui de 2020, c'est le taux de mortalité des arbres. La mortalité a toujours été de l'ordre de 0 à 0,1%. Et l'année dernière, tout d'un coup, 5%. 5% des arbres observés sont morts en une année seulement. Jamais on n'a connu une telle mortalité.
Première victime de cette mortalité exponentielle, les monocultures d'épicéas, un conifère planté en Allemagne en grand nombre il y a 70 ans.
La forêt allemande est encore très marquée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, dans les années 40 et 50, les forêts ont été exploitées de façon excessive parce que l'Allemagne a payé une partie importante des réparations aux Alliés en bois. Quand les réparations ont pris fin, il y a eu des mesures massives de reforestation. Beaucoup d'experts qualifient aujourd'hui d'erreur historique, le fait d'avoir planté presque exclusivement des conifères, notamment des épicéas et des pins. C'est vrai, bien sûr, mais à l'époque, c'était ce qu'on pensait être juste. Épicéas et pins livrent un excellent bois pour la construction. Ils grandissent vite. Dans les années d'après-guerre, personne n'a pu imaginer qu'on allait être confronté au changement climatique.
Après les sécheresses extrêmes des années 2018, 2019 et 2020, les monocultures de conifères sont si fragilisées qu'elles n'ont plus la force de se défendre contre l'un de leurs plus grands ennemis, le scolyte. En raison du réchauffement climatique, cet insecte se reproduit désormais jusqu'à 3 fois par an. Les scolytes s'incrustent sous l'écorce des arbres et bloquent la circulation de la sève.
Les forêts sont notre plus important puits naturel de dioxyde de carbone, mais elles ne peuvent remplir cette fonction d'absorption du CO2 et de rejet de l'oxygène que si elles sont en bonne santé. Quand le changement climatique affaiblit la vitalité des forêts, elles ne peuvent plus participer à la protection du climat. C'est pour ça qu'il nous faut les rendre résistantes au changement climatique. Mais les forêts ont encore d'autres fonctions. Elles jouent aussi un rôle clé dans l'économie, parce que leur bois est une matière première et une ressource énergétique renouvelable. En zone rurale, les forêts représentent des emplois et des revenus.
En Allemagne, des propriétaires forestiers ont abattu ces derniers mois des dizaines de milliers d'hectares d'épicéas dans l'espoir d'endiguer la prolifération du scolyte et de pouvoir vendre ce qu'il reste du bois exploitable.
Je ne vous cache pas que je ne ressens plus seulement de l'effroi, mais surtout une énorme colère, parce que le traitement qu'on inflige aux forêts malades est dramatique et leur état pitoyable.
Le Zustand ist wirklich miserable.
Pierre Ibisch est professeur à l'Université pour le développement durable à Eberswalde et en Allemagne l'une des voies les plus connues pour la protection de la forêt.
Ces surfaces boisées sont coupées à blanc. Les arbres morts ou très malades sont enlevés en oubliant que leur bois représente de la biomasse importante pour le fonctionnement de cet écosystème. Eh bien le résultat, ce sont ces immenses terrains découverts. Ça ressemble à une steppe.
Les conifères attaqués par le scolyte sont en train de mourir. Selon vos connaissances et vos recherches, que faudrait-il faire maintenant avec eux ?
Si on n'intervient pas du tout, ces arbres deviennent instables et tombent. Selon l'âge de l'arbre, ça peut prendre un certain temps. Tant que ces arbres morts restent debout, leur biomasse reste intacte et le CO2 reste stocké, ce qui est important. Ensuite, ces arbres tombent, entrent en contact avec le sol, deviennent humides et commencent la production d'humus. Mais le plus important, sous des épicéas morts poussent de nouvelles plantes, y compris de nouveaux arbres. La régénération naturelle fonctionne ainsi. Il faut juste savoir attendre. Mais quand les gardes forestiers voient des arbres morts, ils sont en panique. Ils se réfèrent à la loi sur la forêt qui stipule qu'après une calamité, il faut des mesures de reboisement. Par conséquent, ils enlèvent les arbres morts, notamment pour pouvoir encore exploiter le bois. Et c'est ainsi que naissent ces immenses terrains découverts.
Et que se passe-t-il sur ces terrains découverts ?
Le contraire de ce qui se passe sur des terrains où les arbres restent debout, où le CO2 reste stocké, où le sol est ombragé et protégé et par conséquent ne se réchauffe pas beaucoup. Sur ces terrains découverts, notamment durant les journées chaudes de l'été, la température est de 15 à 20 degrés plus élevée que dans une forêt saine.
Les autorités allemandes préconisent depuis quelques années une restructuration de la forêt pour la rendre plus résistante, c'est-à-dire remplacer les monocultures par un mélange d'espèces d'arbres plus diversifiés. Mais ces jeunes arbres que l'on plante sur ces superficies coupées à blanc ne peuvent donc pas pousser.
C'est exactement le problème. Quand une surface a été coupée à blanc, l'humus se réduit quand il se réchauffe trop. Le sol se dessèche. Les micro-organismes dans le sol en sont affectés. Donc, tout va mal. L'eau ne peut plus infiltrer le sol et ça chauffe. Les conditions deviennent donc défavorables pour les arbres qu'on vient de planter. Une partie importante de ces jeunes arbres meurt. C'est ce que nous avons constaté, notamment après ces derniers étés très chauds. Sans parler des pépinières forestières. Elles font face à un véritable défi logistique.
Il est 7h du matin et nous avons rendez-vous maintenant avec Frank Zülke qui dirige la pépinière forestière de Eberswalde. Trois millions et demi de jeunes arbres de 19 espèces différentes poussent actuellement dans cette pépinière.
Guten Morgen.
La restructuration des forêts a commencé bien avant les dernières années de sécheresse. Quelles en sont les conséquences pour vous ici à la pépinière ?
Ce qui a changé, surtout, ce sont les espèces d'arbres demandées par l'Office des forêts de Brandebourg. On se détourne de plus en plus des conifères pour se concentrer sur les arbres feuillus, notamment le hêtre et le chêne.
Est-ce que ces dernières années de sécheresse et l'arrivée des scolytes, qui ont endommagé d'immenses surfaces boisées, ont eu un impact sur la demande ici?
Oui, le chiffre a considérablement augmenté. C'est surtout la demande de propriétaires privés de forêts qui est en nette hausse. Certes, nous ici, nous produisons exclusivement pour l'Office de forêt du Brandebourg, mais comme nous sommes présents sur Internet, d'autres propriétaires de forêts nous demandent si nous pouvons leur vendre différentes espèces d'arbres. Ces trois dernières années, j'aurais pu vendre jusqu'à 2 millions d'arbres par an à des privés.
Est-ce que la pression sur les pépinières augmente après ce qui s'est passé?
Sans aucun doute, notamment dans des Länder comme la Rhénanie du Nord-Westphalie où des énormes surfaces de forêt ont été perdues et coupées à blanc, on se lance dans la reforestation. Les pépinières sont sous pression d'abord pour se procurer des semences nécessaires et pour ensuite pouvoir fournir de jeunes arbres. Ce n'est pas facile parce que contrairement à l'agriculture, une pépinière fait pousser les arbres pendant plusieurs années. On ne peut pas semer vite fait tant d'arbres à l'automne si les semences nécessaires ne sont pas disponibles à ce moment-là. C'est un vrai problème.
Les gardes forestiers et propriétaires privés de forêts, eux, cherchent de toute urgence la réponse à une autre question. Quels arbres planter? Des espèces étrangères, plus adaptées à la chaleur? En Allemagne, de nombreuses expérimentations sont en cours, mais...
Personne n'a encore trouvé la solution miracle, parce que l'arbre magique n'existe pas. Nous recommandons donc de miser sur un maximum de diversité. Si une espèce d'arbre ne survit pas et disparaît, une autre, ou plusieurs autres, devraient déjà être présentes dans la forêt pour boucher le trou qui est créé. Dans ce sens, il est probable que des espèces étrangères vont jouer un rôle plus important dans les années à venir. Cela étant dit, nous pensons qu'il faut se concentrer d'abord sur les espèces étrangères qui sont déjà présentes en Allemagne depuis des décennies, comme le sapin de Douglas, le sapin de Vancouver.
Quels sont leurs avantages?
Le sapin de Douglas résiste, par exemple, beaucoup mieux à la sécheresse que l'épicéa. Pourtant, son bois est comparable à celui de l'épicéa. Sur le marché du bois, il pourrait donc remplir le vide laissé par les épicéas malades.
L'approche de l'Institut Thunen se heurte à la résistance des défenseurs pour la protection de la forêt, comme Pierre Ibesch.
C'est une approche très technique des écosystèmes forestiers de penser qu'on peut tout simplement remplacer une espèce qui flanche par une autre pour réparer le dysfonctionnement.
Comment réagit l'écosystème de la forêt aux changements comme ceux de ces dernières années? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a le moyen de le savoir?
On peut le savoir seulement de façon limitée, parce que nous sommes confrontés à des phénomènes qui, par leur ampleur et leur enchaînement, nous étaient inconnus jusqu'ici. C'est en effet un problème pour la science, parce que nous pouvons apprendre de moins en moins du passé. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Le changement climatique nous catapulte littéralement dans un monde nouveau que ni nous, ni les écosystèmes ne connaissons. Cette situation ne peut pas être appréhendée par des modèles, et nous ne pouvons pas nous y préparer en plantant certains arbres. Et ça, beaucoup de forestiers ne veulent pas l'accepter. Ils veulent des réponses de la science pour pouvoir se préparer. Alors moi, je leur conseille deux choses, de la précaution et de la prévention. Sauvegardons autant de forêts que possible, et idéalement tentons de les agrandir. Nous devons faire en sorte que les forêts puissent se refroidir, puissent stocker l'eau. Et dans ce contexte, une importance cruciale revient au sol et au bois mort. Et voilà qu'on arrive à l'épineuse question de l'exploitation du bois.
Est-ce que l'exploitation du bois doit s'adapter à la capacité de la forêt à en fournir, ou est-ce que la forêt doit s'adapter à notre demande de bois? D'autant plus que le gouvernement allemand insiste sur l'importance du bois en tant que matière première respectueuse du climat. Que faire alors?
Jusqu'à présent, l'approche adoptée en Allemagne, c'était que la forêt devait s'adapter à la demande en bois. Le marché a besoin de variétés spécifiques pour un certain prix et la forêt doit les livrer. Mais ça, c'est un piège et la forêt allemande est tombée dedans. Regardez autour de vous. Les forêts souffrent et leur croissance diminue durant les années extrêmes. Plus nous intervenons et plus la situation se dégrade. Pour résumer, en plein changement climatique, la forêt a besoin de son bois pour elle-même.
Ja, hallo Herr Schwerin. Vous habitez où?
Quand vous partez d'Eberswald en direction de Werneuchen, vous prenez à gauche direction Eschfeld. Et c'est là. Ça irait 13h?
Ja, super. Dann wäre ich 13 Uhr bei Ihnen. Dankeschön. Tschüss.
En République fédérale d'Allemagne, la politique forestière est du ressort des Länder. Mais plus de la moitié des forêts allemandes appartiennent à des propriétaires privés. Matthias von Schwerin est l'un d'entre eux. Depuis 25 ans, il exploite une forêt de 1000 hectares de façon durable, précise-t-il. Vous voulez que j'ouvre le portail ?
J'essaye de laisser faire les forces de la nature pour que la forêt se régénère d'elle-même et qu'elle devienne plus résistante au changement climatique.
Et voici déjà votre forêt.
Exactement. Il y a 25 ans, j'ai commencé avec 8 espèces d'arbres. Nous en sommes maintenant à 18 espèces et d'autres sont encore à venir. Regardez par là. Ici, la forêt pousse toute seule. Il y a des hêtres, des charmes et là, un cerisier, apporté probablement par un oiseau. Ça ne m'a rien coûté et voilà que pousse ici un magnifique cerisier qui, dans 50 ans, sera un arbre précieux pour ses fruits, mais aussi pour son très beau bois.
Est-ce que vous avez aussi dans votre forêt des parties qui ont souffert ?
Oui, justement, c'est là que je vous emmène maintenant. Ah, justement, ils sont en train de couper les arbres. On va descendre ici. Voilà, c'est à peu près un hectare. Et la question est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Venez, allons y réfléchir. Cette parcelle était autrefois une partie de la forêt. Les épicéas qui poussaient ici ont tous été abattus parce que le scolyte les a ravagés. Ce que nous voyons ici sur une petite parcelle se déroule actuellement partout en Allemagne à très grande échelle. Comment faire en sorte qu'une nouvelle forêt pousse ici et surtout qu'elle soit encore là dans le futur ?
La question est donc, et maintenant ?
Oui, la particularité du sol sous des épicéas, c'est que ce sol est très acide. Après la coupe, nous allons retirer la couche de mousse avec une sorte de grand râteau pour révéler le sol minéral. C'est sur ce sol qu'une nouvelle forêt pourra pousser. Il y a tant de semences qui sont apportées par le vent ou des oiseaux. Elles trouveront ici des conditions pour germer et grandir.
Dans la forêt de Matthias von Schwerin, la régénération naturelle de la forêt et la diversification des espèces fonctionnent.
À l'inverse de ce qui se passe dans d'autres forêts, nous n'avons pas de problème avec des populations excessives de gibiers qui sont très friands des jeunes pousses d'arbres. Nous chassons. Chez nous, la chasse est au service de la sylviculture. Nous laissons la forêt se développer le plus naturellement possible, tout en chassant de façon intensive. Et ceci pour garantir que tous les petits arbres qui germent puissent devenir des grands.
En raison de la sécheresse, Matthias von Schwerin a dû réduire son exploitation de bois de 2500 stères par an. Dans l'ensemble des forêts d'Allemagne, les dommages causés ces trois dernières années s'élèvent à au moins 13 milliards d'euros. La Confédération allemande des propriétaires de forêts parle même de crise du siècle. Le gouvernement fédéral a débloqué différents fonds d'urgence, mais ils ne couvrent qu'à peine 20% des coûts engendrés pour les propriétaires forestiers. Pourtant, le pays attend d'eux qu'ils aident à la naissance de nouvelles forêts capables de résister au réchauffement de la terre et ainsi de protéger la population.
En tant que propriétaire forestier, je dépends bien sûr de la production du bois et de sa vente. En même temps, la forêt devient de plus en plus importante pour la société. Nous, les forestiers, devons donc lui faire comprendre que la forêt est particulièrement importante pour elle au regard du changement climatique. Quand nous coupons moins de bois, cela doit être valorisé. Les services que l'écosystème de la forêt fournit pour nous protéger doivent être rémunérés par la société.
Le gouvernement allemand sortant a présenté un projet qui va dans ce sens. Une prime CO2 qui prévoit de rémunérer les propriétaires de forêts pour la capacité de leur surface boisée à stocker le dioxyde de carbone. Cela permettra aux exploitants forestiers de gagner de l'argent sans couper les arbres.
Il ne s'agit plus de la forêt dans laquelle on se promène. Non, nous devons faire comprendre que de la forêt dépend notre survie.
Changement climatique, l'Allemagne à la recherche de la forêt du futur. Un grand reportage de Stéphanie Schuller, réalisation Pauline Leduc.